Florentin de naissance et nom de mœurs. Il était intéressant d'improviser autour de cette déclaration de Dante sur laquelle il insiste beaucoup, car dire ce qui la motive, c'est aussi dire l'histoire de sa ville, de cette Florence de la fin du XIIIe siècle et du début du XIVe, alors que dans tout le pays, des seigneuries voient le jour, qu'ailleurs de grandes nations se consolident, que partout la culture se développe, et tout ceci dans un jeu très compliqué où alternent la guerre et la paix. C'est dire aussi comment Dante est entré dans la vie politique de Florence. C'est expliquer ses choix, puis son exil, puis ses longues années d'errance qui s'achèveront en 1321 à Ravenne. 19 années dont on sait en vérité très peu de choses, sinon qu'elles sont marquées très vite par la fin du rêve politique de Dante, celui de voir un prince un jour rétablir le Saint-Empire romain et reconduire le pape dans l'orbite spirituelle, et uniquement spirituelle, et surtout quelles furent les années de création les plus intenses. C'est en plein centre de la ville, près de l'église Orsan-Michele, dans le très ancien palais des Arts de la Laine, qui s'y installèrent en 1308, là où se trouve la plus importante bibliothèque dantesque au monde, que nous sommes allés demander au professeur Francesco Mazzoni de nous faire un peu d'histoire.
Dante, il est né en 1265, lorsque pratiquement le pouvoir jubilain il était en train de s'évanouir. Florence, elle était guelfe. Et aux alentours de Florence, il y avait les familles nobles, n'est-ce pas? Et du moment qu'il avait reçu leur pouvoir de l'Empire, il était gibelin. Alors, Florence, il était une ville bourgeoise, donnée au commerce, aux arts, à l'artigianat. Hein? Et alors, il était justement guelfe du moment qu'il n'avait rien à faire avec l'empereur et avec les nobles et avec les comtes ou bien les marquis. Et alors, il a eu une lutte en rapport à l'expansion économique de Florence qui cherchait à s'épanouir en dehors. Et alors, il a eu des luttes entre les nobles qui étaient gibelins et la commune qui était guelfe. Mais la défaite des gibelins à Benevento en 1266 et puis après encore et mieux encore la défaite de Corradino après la mort de Manfredi à Tagliacozzo a marqué la fin du pouvoir gibelin en Italie. Et de ce moment-là, Florence a été guelfe et simplement guelfe et absolument guelfe. Il n'a plus eu question des guelfes et des gibelins dans la vie de Florence. Maintenant, nous sommes à l'âge des dents, n'est-ce pas? Sa famille, c'était une famille guelfe, mais absolument pas important. Alors, il n'était pas en exil. Le père des dents, il est resté à Florence, il demeurait à Florence. Non? Ça signifie simplement qu'il n'était pas une personne importante, n'est-ce pas? Il était un petit banquier, il prêtait de l'argent. Bon, c'était un bourgeois. Dante, pour commencer sa vie politique après le commencement de sa vie littéraire, il était considéré encore appartenant à une famille de la noblesse. Et, vous savez, Florence, c'était une ville démocratique. Non? Il y avait un gouvernement démocratique qui empêchait à la noblesse de gouverner la ville, n'est-ce pas? Et alors, en 1293, il a eu une loi, les ordinamenti de giustizia de Giano della Bella, qui empêchait aux nobles de participer à la vie politique. Mais c'était une loi qui a eu, deux ans après, une modification. Hein. On consentait aux nobles de prendre parti à la vie politique à deux conditions. La première condition, c'était qu'il n'y avait pas de chevalier dans cette famille, dans au moins trois générations. Et la deuxième condition, c'était l'inscription à une des corporations de commerce de la ville de Florence. Non? Alors, Dante, en 1295, il a choisi de s'inscrire à l'art des médecins et des apothicaires. Pourquoi il s'est inscrit à cet art? Je pense pour deux raisons. La première, que l'art des médecins et des apothicaires, c'était très proche à la culture philosophique. Tous les traités de médecine s'étaient composés par philosophes, et c'est pour ça que Dante, qui avait travaillé à Santa Croce, à l'école des philosophanti, comme il dit, des philosophes, justement dans ces années, il a pu s'inscrire, il s'est inscrit à l'art des médecins et des apothicaires. Et l'autre raison, c'est une raison tout encore plus personnelle, mais que dont j'en suis sûr, dans une page admirable de sa vie nouvelle, dont il nous dit qu'un jour il travaillait à dessiner le portrait d'un ange. Il pensait évidemment à Béatrice, il dessinait un portrait d'un ange. Alors, il était peintre, ou quand même il était capable de dessiner. Alors, les apothicaires, pas les médecins, c'était ceux qui fournissaient aux peintres les matériaux pour la peinture, n'est-ce pas? Alors, évidemment, Dante avait des rapports avec les apothicaires, justement pour ça. Lorsqu'il désirait acheter quelque chose pour dessiner, il devait se rendre chez un apothicaire. Alors, il a choisi l'art des médecins et des apothicaires pour ça. Mais il n'a jamais exercé son art, et il a exercé l'art de la politique, et l'art de bien conduire sa raison dans la vie politique de Florence. C'est-à-dire, j'ai rappelé une formule que c'est une formule pas seulement cartésienne, l'art de bien conduire sa raison, n'est-ce pas? C'est aussi la formule qu'on peut lire dans la rhétorique de Brunetto Latini, le maître de Dante, qui lui a donné les renseignements pour commencer justement sa vie politique et pour bien se conduire dans la vie politique. Lorsque Dante commence sa vie politique en 1295, les guelfes sont simplement guelfes, mais il y a des gens dans les guelfes, n'est-ce pas, de côté. Un côté proche à la famille des Donati et l'autre côté proche à la famille des Cerchi. Les Cerchieschi, ils deviendront les Guelfi bianchi, les blancs, et les Donateschi, ils deviendront les noirs. Hein. Mais ça, quelques années plus tard. Et, opposition, c'était une opposition liée à des raisons économiques, du moment que les Donateschi étaient beaucoup plus puissants. Et ils désiraient s'emparer du pouvoir effectif de la ville de Florence en s'appuyant à la papauté, n'est-ce pas, que c'était le véritable pouvoir en Italie dans ces années, du moment que l'Empire il était vacant. N'oublions pas justement que cette situation c'était dû à une réaction, à une mise en chaîne, vous comprenez, dû à la mise en présence de Bonifacio VIII, de Boniface VIII en 1294, événement qui a posé pour Florence des problèmes politiques remarquables. Hein. Du moment que Boniface VIII n'a jamais été un pape commode, hein. Il désirait extendre le pouvoir de l'Église en Italie. Et alors, Boniface VIII a toujours cherché de s'emparer de Florence, comme de la clé qui lui pouvait consentir d'ouvrir la porte du domaine absolu en Italie de la part de la papauté. Et il a joué très habilement entre ces deux côtés florentines, les Donateschi et les Cerchieschi. Et les Donateschi, ils exerçaient le commerce d'une façon remarquable. Il avait beaucoup plus d'argent que les Cerchieschi, vous comprenez. Corso Donati, il était un baron, hein. On le sentait comme un baron, c'est-à-dire presque comme un noble, n'est-ce pas? Et il exerçait le commerce avec l'étranger. Et alors Boniface VIII s'est appuyé aux Donateschi justement pour s'emparer de la ville. Il a promis aux Donateschi en particulier, que s'il appuyait dans sa politique d'expansion et d'acquisition de la Toscane, il lui aurait consenti un pouvoir effectif dans la ville de Florence. Et alors, c'est à ce moment que Dante, lorsqu'il commence sa vie politique, il doit choisir, hein, entre ces deux côtés. Il n'avait pas beaucoup d'argent, et c'est pour ça qu'il est devenu ami des Cerchi, aussi pour une autre raison, que les Cerchi, il était beaucoup plus modéré, et Dante, évidemment, du point de vue de la politique, il avait un esprit modéré. Il n'aimait pas l'outrance des magnati, c'est-à-dire des nobles. Il détestait la, la noblesse, ou pour mieux dire certaines noblesses, et surtout il détestait les magnati, c'est-à-dire l'outrance de ce côté des nobles qui exerçaient son pouvoir d'une façon pas du tout démocratique et surtout sans charité. Hein, sans charité. Et Dante il avait déjà dans son cœur cette notion de charité qu'il va compléter et dans son paradis et dans sa comédie, vous comprenez. Et en 1296, il prend parti contre Boniface VIII, n'est-ce pas? Lorsque Boniface VIII demande à la ville de Florence de l'aider pour étendre sa puissance dans le Latium contre les Aldobrandeschi, non? Il demande à Florence de lui envoyer des chevaliers. Et Dante, il refuse d'aider Boniface VIII. Il dit qu'il ne peut pas rendre un service au pape. Hein. Et puis après, Dante, il a travaillé dans la commune florentine jusqu'à devenir, en 1300, un des prieurs, c'est-à-dire un des gouverneurs de la ville du 15 juin au 15 août du 1300. Hein. Et c'est justement dans cette charge qu'il doit se battre contre la tendance à l'intérieur de la ville d'appuyer Boniface et contre Boniface même qui désirait s'emparer complètement de Florence. Et en 1300, n'est-ce pas, Boniface VIII, lorsque Dante était un des prieurs, hein, sur le faux prétexte d'envoyer un ambassadeur de paix, Boniface VIII envoie Charles de Valois qui n'était pas du tout un ambassadeur de paix. Hein. Il était un général avec une armée qui entre en Florence et c'est alors que Boniface VIII s'empare véritablement de Florence au moyen de son délégué, c'est-à-dire de Charles de Valois. Et Dante, il n'était plus à Florence en ce moment-là, car il a été envoyé chez Boniface VIII pour essayer un tentatif extrême de le convaincre de ne pas s'emparer de Florence avec la violence, hein, comprenez. Alors Dante il était déjà hors de Florence en ce moment-là, en 1301, 1302, hein, et il n'a pas pu rentrer à Florence, il a dû demeurer en dehors, hein, de sa ville.